pour Dieu, tu sais.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Entre Deux Mers. Il est l'heure de retrouver Conversation autour du cinéma avec Anne. Anne, bonjour.
Bonjour, bonjour Mathieu. Et tu vas bien? Est-ce que... Oui, tu vas bien.
Hein, oui, je vais bien. Oui, tu l'entends, bon. Ma voix. Oui, oui, je vais bien. C'est un bon mercredi.
Dis-le à nos auditeurs, voilà, comme ça ils vont être contents que tu ailles bien.
Et toi aussi, je te sens tout à fait en forme.
Oui, aussi, on peut le dire à nos auditeurs, parce qu'on est tellement contents de les retrouver, voilà, et c'est ça, quoi, parce que dès que ce sera fini, qu'on les aura lâchés, on sera beaucoup plus triste, enfin moi en tout cas. Oui. Moi j'aime bien quand je suis avec eux, voilà. Non, mais c'est même pas du baratin, mes chéris, c'est vrai hein, en plus, hein. Je suis très contente quand je suis avec vous. Même si on ne se voit pas, ce n'est pas grave. Merci de nous recevoir chez vous, hein, de recevoir la radio Entre Deux Mers. Voilà, notre jolie radio. Alors, on va commencer par quoi ?
Alors, quoi d'abord ? Un film américain, Ticket to Paradise, avec le retour de deux grandes stars du cinéma.
Oui, il est très attendu ce film, même en France d'ailleurs, hein, il est très attendu parce que ce sont des acteurs qu'on aime beaucoup. Ticket to Paradise, ticket pour le paradis, pas difficile à traduire hein, quand même. Ça dure 1h44, c'est une comédie, il y a de la romance bien sûr, et c'est réalisé, oui, ah bah oui, oh là là, c'est réalisé par Ol Parker. Ol Parker, c'est un réalisateur scénariste, il est producteur, il est délégué, il est britannique, il a 53 ans, il a 26 ans de carrière, il a 14 tournages à son actif, voilà quand même. Oh, mais il a bien travaillé, il a commencé jeune quand même, donc 53 ans, 26 ans de carrière, ça va. Ben, j'avais retenu moi un film en 2002 de Doug Parker qui s'appelait Now is Good. Maintenant tout va bien, voilà. Ça, il y a eu 5 nominations. Il y avait Dakota Fanning dedans, c'était assez extraordinaire. C'était une fille qui se battait face à la maladie et à la mort et elle ne souhaitait qu'une chose, c'est découvrir l'amour avant de partir. C'est un très très beau film qui a très bien marché et Dakota Fanning, elle est assez extraordinaire. Now is good, ça s'appelle. Si vous le trouvez, mes chéris, en DVD, parce qu'on le trouve, pas très cher. Oh, vous savez, vous pouvez l'acheter en toute confiance. Il est très beau. Alors, Ticket to Paradise, c'est quoi d'ailleurs ? Ben, oui. C'est un. Ben oui, ben, c'est quoi cette affaire-là ? On va au paradis directement ? Ben, pas tout de suite. Un couple séparé est réuni pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur que jadis. Deux points, céder au coup de foudre. Oh, alors ça, c'est une drôle d'idée quand même de vouloir empêcher leur fille de céder au coup de foudre. Bon, alors, tu as parlé d'acteurs prestigieux. Le casting, évidemment, il est formidable. On a Julia Roberts, c'est la maman, Georgia. Et puis, on a Georges Clooney, c'est le papa, c'est David. C'est Georgia et David Cretton. Les parents de cette jeune fille qui s'appelle Lily Cotton et qui est jouée par Kathleen Dever. Super, super. Le casting, vraiment, il n'y a aucune erreur là. On a Billy Lord, c'est un acteur américain. On a Lucas Bravo, on le connaît, c'est un acteur français. On a Ariel Carver O'Neill, qui est une actrice américaine. On a Pak Agunt Pinta, qui est un acteur indonésien qui joue le rôle, enfin il joue le rôle, oui, dans le film, du père de Gede. Gede, c'est le fameux jeune homme qui a le coup de foudre, hein, puisque tous les deux, Lily et Gede, ont le coup de foudre. Et Gede est joué par Maxime Boutier. Et c'est son premier long métrage en langue anglaise, parce qu'il est franco-indonésien. Il vit en France la plupart du temps, Maxime Boutier. Et très beau garçon, mais les filles, ouais, très beau garçon, je vous le dis, quoi. Ne le répétez pas autour de vous, à vos époux, vos fiancés, tout ça. Hein. Mais c'est un beau garçon quand même, hein, Maxime Boutier. Voilà, donc c'est vraiment une jolie histoire, hein, de toute façon. Alors, Ol Parker et son scénariste Daniel Pipsky, qui a travaillé avec lui, qui a déjà travaillé avec lui. Alors, pour l'écriture, du scénario, quoi. Tous les deux se sont servis d'une citation comme idée directrice. Alors la citation, c'est celle-ci. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Ils ont donc Eh oui, quand on n'a plus d'amour, c'est pas de la haine, c'est de l'indifférence. Ouais, le contraire de l'amour. Il est donc, en fait, ils ont fait en sorte, en fait, hein, qu'il n'y ait jamais d'indifférence entre les deux protagonistes, Georgia et David. Eh oui, parce qu'ils avaient leur petite idée. Alors, les comédies romantiques, nous dit Ol Parker, le réalisateur, attirent un public très large qui aime se retrouver pour rire et s'attendrir en groupe. Voilà ce qu'il pense, cet homme-là. L'histoire se déroule à Bali, normalement, qui est une île indonésienne. Hein. Mais en fait, le film a été tourné à l'automne 2021 dans le Queensland, en Australie. Il y avait très peu de cas de Covid en Australie à ce moment-là. Ça a beaucoup joué, ça, pour qu'il choisisse justement de tourner dans le Queensland. Et puis alors plus tard, quand le confinement a été levé en Australie et partout, hein, le confinement levé absolument partout, il y a une équipe du film a été envoyée à Bali pour les plans qui manquaient. Donc il y a des plans de Bali également dans ce film. Jolie visite quand même, l'Australie et Bali. Non, c'est chouette, c'est joli comme tout. Ticket to Paradise, 1h44, je l'avais peut-être dit. C'est un film américain. Je ne sais pas si tu avais une bande-annonce. Est-ce que tu avais ça?
J'ai une bonne annonce
Merci.
en version française qu'on écoute tout de suite.
Excusez-moi, je crois que vos affaires sont sur mon siège.
Pardon.
Oh, c'est une blague.
Oh non, il manquait plus que ça.
S'il vous plaît, madame, il faut que je change de place. On a été mariés.
19 années, les pires de ma vie.
On a été mariés que 5 ans.
Oui, plus le temps de m'en remettre.
Dans 4
Notre
jours.
Fille va épouser un type qu'elle vient de rencontrer à Bali, à des milliers de kilomètres de chez nous.
J'ai très envie de t'embrasser. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et que je réalisais que ce que j'ai toujours voulu était devant moi.
Elle va ruiner sa carrière.
Comme sa mère a dû le faire, il n'y a que moi qui puisse l'en empêcher. Lui, elle ne l'écoute pas.
Oh, du champagne.
Oh, deux, s'il vous plaît.
Laissez la bouteille. Merci.
Je ne la laisserai pas gâcher sa vie. Il faut qu'on la pousse à le larguer. Même si ça va être pénible pour nous deux, il faut qu'on fasse une trêve pour que ça marche.
Ouais, on doit faire équipe.
Alors, vous avez fait un pacte de ne pas vous entretuer avant de m'avoir tué?
On est ici pour toi, mon
ouais,
cœur.
On fait équipe.
Tu me promets, pas de remarques méchantes.
Tu crois qu'il y a un cadeau à la clé si tu finis tout le cochon?
Pas de dispute.
Pousse-toi,
pas d'attitude passive-agressive.
Et agressive-agressive? Essaie de ronfler en sourdine.
J'ai un patch nasal.
On se demande pourquoi t'es encore seule.
Maman, papa, voici Guédé.
Homme soit si astu, Guédé.
Hé, ça c'est pour me faire passer pour un naze.
Tu n'as pas besoin de moi pour ça.
Vous êtes sûr que c'est pas des requins?
Oh, fais pas ta poule mouillée.
Ils sont peut-être de mèche avec les requins.
Allez, plonge.
Être mordu par un dauphin, tu le crois?
Bouge
Mais
pas.
Qu'est-ce que tu fais?
Il a dit d'appuyer.
Ah,
Il a dit,
stop.
Georgia, appuyez.
Bon, c'est quoi le plan?
On vole les alliances.
Ils font quelle tête?
Dépité. Tu penses qu'on a tort?
On n'a pas tort.
De quel droit on peut dire que Lily ne sait pas ce qui est bon pour elle?
Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à le croire.
De quoi tu parles?
Elle a trouvé les alliances.
Où?
Dans le sac de maman.
Je m'en doutais.
Quoi?
T'es pas mal.
Et voilà.
C'est pas pour les petits joueurs.
Il en a vu d'autres.
Ok, allons-y, allons-y.
On peut avoir un truc qui soit un peu plus de leur génération?
C'est parti.
Allez.
Lequel?
Il n'y en a qu'un.
J'en vois deux. Ah oui.
Ouais,
ouais.
Oh non, non. Papa, s'il te plaît, arrête. Au secours. Je prie pour qu'un astéroïde s'écrase.
Et voilà la bande-annonce donc de Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts.
Ah là là, toujours aussi splendide Julia Roberts. Ah, décidément.
Ouais.
Ça, c'est pour les messieurs, bien sûr. Donc,
un cinéma plus français, puisque
oui.
Bien qu'elle ait une carrière internationale, Léa Seydoux, à l'affiche de ce film, il s'agit maintenant de nous parler, je crois, d'un beau matin.
Un beau matin, eh oui, un beau matin, ça dure 1h52, c'est de la romance, il y a du drame, c'est français, tu l'as dit, et c'est Mia Hansen-Love, je trouve qu'elle a un nom adorable, Hansen-Love, c'est joli ça, et c'est une réalisatrice, scénariste, actrice française, elle a 41 ans, elle a 23 ans de carrière, elle a 13 tournages déjà dans sa besace. Mais elle a commencé jeune également quand même, hein, 41-23. Aïe, 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 elle était petite. Elle a donc, elle a totalisé pour le moment, hein, 5 prix et 44 nominations. Ah bah oui, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle réalise un film, elle gagne quelque chose. C'est comme ça. Ah bah oui, par exemple, on avait eu en 2007 un prix, 7 nominations au Festival de Cannes. Et le prix, c'était le prix Louis Deluc du premier long métrage. Quel beau prix pour un premier long métrage, bon sang. Ça s'appelait, le film s'appelait Tout est pardonné. Enfin, il s'appelle Tout est pardonné avec Constance Rousseau et Paul Blin. Très, très chouette. Il a très bien marché à l'époque. J'ai regardé un peu ce que c'était. En 2009, c'est Le père de mes enfants. Oh, celui-là a très bien marché également, avec Louis Do de Lanxin et Cara Gazelli, par exemple, dans les rôles principaux. Il y a eu 2 prix, 5 nominations au Festival de Cannes 2009. C'était le prix spécial Un certain regard et le prix du meilleur scénario aux Lumières de la presse étrangère en 2010. Et puis, oh, bah, pour en citer un autre, 2016, elle a eu l'Ours d'argent à la Berlinale 2016, 1 prix et 6 nominations pour il y avait André Marcon et Isabelle Huppert. C'était Bergman. Ah non, ça c'est autre chose, pardon. Non, l'Ours d'argent, c'était pas pour le même. C'était en juillet 21, Bergman Island, le film qui a très très bien marché également. On en avait parlé à Radio Entre deux Mers de ce film. C'était, il y avait Vicky Krieps et Tim Roth, pas n'importe quoi comme casting, et il y avait eu également 12 nominations au Festival de Cannes 2021. Ils ont frôlé le prix, mais alors vraiment frôlé, hein. C'était très chouette aussi, Bergman Island. Alors là, bon, ben, un beau matin, qu'est-ce qu'on va faire alors ce matin, puisqu'il est beau? C'est Sandra, qui est une jeune mère qui élève seule sa fille, qui rend souvent visite à son père malade, Georges. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps. Alors c'est pareil, on a un joli, joli casting. Tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, Léa Seydoux, mais oui, c'est elle, Sandra. On a Pascal Grégory qui joue le père, Georges, le père souffrant. On a Melvin Poupeau, oh là, qui joue Clément. On a Nicole Garcia qui joue la mère de Sandra. On est content de retrouver Nicole Garcia. Ah, sacrée actrice, sacrée réalisatrice également. On a Camille Leban-Martins dans les rôles principaux. On a Elsa Gage. On a Masha Kondakova aussi. Donc, ça dure 1h52. Il y a un prix et une nomination à la quinzaine des réalisateurs 2022. Attention, le prix, c'est quand même le label Europa Cinéma. Joli prix. Drame, romance, hein, voilà. C'est un film français très, très chouette, hein, vraiment. Alors, c'était quand même… Mia Hansen-Love voulait absolument… tourner ce film. Elle l'a écrit d'ailleurs, elle a écrit le scénario en partie inspiré de la maladie de son père, alors qu'il était encore en vie. Je cherchais à donner un sens à tout ce que je traversais, nous dit-elle, et je voulais explorer la façon dont peuvent dialoguer deux sentiments opposés, un deuil et une renaissance. Le fait de les éprouver simultanément, quand même, voilà. Donc là, elle a sauté carrément, hein. Bah oui, c'est pas son histoire, hein, mais elle s'en est inspirée quand même. Et oui. Alors, même si elle est tourmentée, l'histoire entre Sandra et Clément, qu'elle retrouve, hein, puisque Sandra retrouve cette amie, c'est surtout une joie. Voilà ce que nous dit la réalisatrice. Avec son père, elle ne vit que de souffrance, en fait, hein. Alors, les deux récits cohabitent absolument. Et cela m'intéressait, ajoute la réalisatrice, de trouver une forme cinématographique pour donner à voir cette coexistence. D'un côté, la joie avec cette amie qu'elle retrouve, amie perdue de vue depuis longtemps, et puis la souffrance du côté de son père. Et c'est la question de la mémoire qui parcourt le film. Parce qu'elle échappe à son père, à Georges, qui est joué par Pascal Grégory, on l'a dit, qui lutte pour la retrouver, hein, la recouvrer même, et la mère de Sandra, Nicole Garcia, qui semble avoir besoin de se délester du passé. Paradoxalement, nous dit Mia Hansen-Love, la mémoire est du côté du père. Cela tient sans doute aux figures masculines et féminines de mon histoire familiale. Dans les histoires que je raconte, les figures maternelles sont plus facilement tournées vers l'avenir et les figures paternelles sont plus foncièrement mélancoliques. Voilà ce qu'on peut dire chouette sur ce film. Absolument, voilà. Ouais. Et pour une fois, d'ailleurs, Léa Seydoux ne ressemble pas à ce qu'on sait d'elle d'habitude. C'est-à-dire que là, elle est, on l'a vu souvent, elle était apprêtée dans ses films, hein, très lookée, voire déguisée. Ici, elle est plus simple dans son apparence et dans sa façon d'être. Elle a même les cheveux courts, très courts là. Hein. Donc, c'est une, Léa Seydoux fait une carrière quand même assez extraordinaire.
Hein. Oui, c'est vrai. Et internationale. Voilà.
Ah oui, tout à fait, complètement même. Ah ouais, ouais, elle est vraiment, ouais, elle a ça, le cinéma dans la peau. C'est comme ça qu'on peut dire, non, je pense.
Oui, oui. Oh ben, en voilà. Plus, elle y a toujours baigné avec son papa producteur.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, elle est d'une famille en plus, tournée quand même vers le cinéma. On va passer à un autre film, tu veux bien là maintenant?
Oui, tu voulais pas écouter la bande-annonce?
Non, mais est-ce qu'on... Oui. Ouais, non, ben là...
On passe sur un poids lourd des sorties, alors.
Voilà, la bande-annonce n'est pas extraordinaire, en fait. Hein, c'est pour ça.
D'accord.
La bande-annonce d'un beau matin, c'est pas extraordinaire. Je préfère que nos auditeurs aillent voir le film carrément, quoi. Okay. La bande-annonce n'est pas formidable, voilà. On va passer...
À novembre.
Ah bah dis donc. Alors, toi, tu sautes d'octobre à novembre. Ah bah bravo. Ouais.
Ah, je d'accord. Bah...
Ah, mais c'est le titre du film, excuse-moi, mon Dieu, c'est le titre. C'est novembre, et oui, oh là là. Alors, ça dure 1h47, c'est un thriller policier, et un policier, mais policier costaud, hein, parce que thriller, c'est la taille au-dessus déjà. C'est donc, il y a eu une nomination, long métrage hors compétition au Festival de Cannes 2022, et c'est Cédric Jiménez, dont on a souvent parlé déjà, oh là là, ça marche très bien pour lui. Qu'il l'a réalisé, il est réalisateur, scénariste, producteur, il est français, il a 46 ans, 18 ans de carrière, 9 tournages quand même pour lui, voilà. Et puis il a travaillé avec, ou plutôt Olivier Demangel, le scénariste bien connu dans le milieu du cinéma, a travaillé avec lui sur ce film. Bah, eh ben, oh, on peut se souvenir quand même d'un film qui a beaucoup marqué, voilà, pour situer Cédric Jiménez un petit peu. En 2021, c'était Bac Nord, le film Bac Nord. Ah ouais, alors là, qui a eu des nominations d'ailleurs. Hein. Bac Nord, la brigade anti-criminalité avec Gilles Lelouch. Il y avait Adèle Exarchopoulos. Voilà. Ce film a beaucoup marqué hein, quand il est passé. On en avait parlé évidemment longuement à Radio Entre-deux-Mers. Et là, novembre, eh bien, c'est une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre, dont tout le monde se souvient malheureusement. Alors c'est pareil, là, il y a un casting extraordinaire hein, pour ce film. Alors on a Anaïs de Moustier, on a Sandrine Kiberlin, on a Jean Dujardin, Jérémy Régnier, il y a Lina Koudry, Stéphane Bach, Cédric Kahn, ah oui, Cédric Kahn, le réalisateur. On a Sofiane Kames, je crois qu'on dit Kames, oui, c'est ça, c'est Sofiane Kames, on le connaît, lui, dès qu'on le voit, on le reconnaît. Hein. On a Sami Outalbali, ben lui aussi, Sami Outalbali, on le connaît physiquement, absolument. On a Sophie Catani, Raphaël Quenard, Jérémy Lopez, et il y en a encore beaucoup d'autres. Ce sont des acteurs qu'on connaît, hein. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les reconnaît à peu près tous. C'est vraiment, c'est un film, évidemment, là, c'est pas de la comédie, c'est sûr, hein, c'est autre chose. Mais en fait, un an et demi après la nuit du 13 novembre, Olivier Demangel, le scénariste dont je viens de parler, a cherché à écrire un scénario centré sur les attentats, mais sans reconstituer ces derniers, ni incarner les victimes et les terroristes. Voilà. En fait, il dit que cette nuit au cours de laquelle la société et Paris ont failli basculer dans le chaos, et comment les pompiers, les personnels hospitaliers, ceux du SAMU, les policiers ou encore les magistrats ont réussi à prendre le dessus pour maintenir la cohésion et la cohérence de la ville et du pays. Alors il nous dit, j'ai eu envie de raconter ce que c'est que le service public aujourd'hui. Ce service qui subit tant de critiques et qui est pourtant le fondement de la société, en particulier de la nôtre, qui nous protège durant un événement pareil. Qui travaille quand nous avons peur? Plus que le choc, j'ai voulu travailler sur l'onde de choc, c'est en réfléchissant à ces questions que j'ai découvert ce qui s'était passé à la SDAT pendant ces 5 jours. La SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste. Voilà, c'est un film quand même un peu coup de poing en même temps. Hein. C'est... Alors, le cinéaste, lui, Cédric Jiménez, à l'origine, il était réticent hein, à l'idée de faire un film sur les attentats. Et pourtant, il a été séduit par l'angle du scénario qui n'est pas centré sur les attentats en eux-mêmes, mais sur les 5 jours qui ont suivi. Il nous dit, au-delà du choc, l'enquête de la police a représenté un travail titanesque et en termes de responsabilité, la tension était incroyable pour ce service. Le scénario parle de cela. Je me suis mis à la place des enquêteurs et je me suis demandé comment je réagirais face à l'obligation de résultat et à la crainte d'un désastre si ce même résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà, voilà ce qu'on peut dire d'important quand même sur le film Novembre. Si, mes chéris, si vous êtes intéressés par les attentats, enfin si c'est quelque chose que vous aimeriez comprendre, la suite des attentats, les 5 jours qui ont suivi, allez voir ce film, il est vraiment pour vous dans ces cas-là. Ah, Novembre.
Ouais.
Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau, ils te regroupent tout le monde.
Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré Rubicha au Carillon, rue de la Fontaine au Rouen.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue.
Arrête-toi !
Faisais quoi le soir du 13 novembre ?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper.
J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes.
Tout est lié. C'est quoi son nom ?
Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui.
Comment vous l'avez récupéré, l'adresse ?
Je l'ai suivi.
Vous avez travaillé en dehors de toute procédure !
Non mais reprends-toi là ! Rassemble-toi ! Moi j'ai besoin de toi !
Comment c'est possible que vous n'ayez rien ? Ça fait 3 jours maintenant.
Je sais où sont les 2 terroristes.
Novembre donc, avec oui. Jean Dujardin.
Avec Jean Dujardin, hein, oui, oh, mais ils sont tous... oui, oh là là, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, pardon, excusez-moi, mademoiselle Kiberlin, Jérémy Régnier, enfin bref, que des gens de grand talent pour ce film.
Oui. Voilà. Ouais. Et je trouve ça très intéressant dans le point de vue de ne pas montrer le pendant, mais l'après, en fait. C'est vrai qu'on...
Mais oui, justement, c'est là qu'est l'intérêt. De toute façon, Cédric Jiménez n'aurait pas tourné un film sur les attentats s'il avait fallu montrer les attentats, les terroristes, etc. Ça, il ne voulait pas. Ça, il ne le voulait pas. Par contre, là, oui, le suivi 5 jours après, ouais, là, il était d'accord, ça l'a même séduit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Oui. On va passer à une autre femme. C'est bien une autre femme.
Une femme qui revient, on n'avait pas vu depuis un petit moment, je crois, Sophie Marceau.
Tout à fait. On est content, on est très content de la retrouver. Et ça s'appelle, là, on va parler d'une femme de notre temps. Ça, c'est le titre du film. C'est Sophie Marceau aussi, bien sûr. C'est le titre du film qui dure 1h36. C'est un drame français qui a été réalisé par Jean-Paul Sivérac. Il a 57 ans, il a 30 ans de carrière. Oh, bah, il a quand même déjà tourné 15 fois. Voilà, 15 tournages. Ben oui, alors en 2010, on se souvient de ce film « Des filles en noir ». C'était l'histoire de 2 jeunes adolescentes capables de tout et qui inquiétaient leurs proches. « Des filles en noir ». Il y avait Élise Lomo, il y avait Léa Tissier, il y a eu 5 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2010, et il y a eu aussi, il y en a eu 4 autres au Festival international de Dieppe 2010. Il y avait, ce film était, quand il est sorti, il a très bien marché, mais il est terrible ce film-là, des filles en noir. Donc là, il s'agit de qui, là ? Monsieur Sivérac s'est intéressé à Juliane. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d'une grande intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue capable. Eh oui, comme quoi, hein, dans la vie, c'est ça. Et alors là, on a un casting super, vraiment très, 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 très sympathique, très beau. Sophie Marceau qui joue Juliane. C'est elle, la commissaire de police, hein, la femme intègre. Et puis on a Christina Flutur. Alors Christina Flutur, c'est une actrice roumaine, et elle avait eu un prix d'interprétation féminine en 2012 pour le film, enfin pour son rôle dans le film Au-delà des collines. Et on la retrouve là, Christina Flutur, avec beaucoup de plaisir. Et puis on a Héloïse Bousquet, on a Johan Eldenberg, c'est un acteur belge. On a Michael Herpelding, c'est également un acteur belge. Là, j'ai des acteurs belges surtout d'ailleurs. On a Wassini Mbarak, on a Manuel Lelièvre, on a Christelle Cornil. Oui, Christelle Cornil, on la connaît. Elle fait partie des second rôles extraordinaires. Quand on la voit là dans le film, on sait qu'on la connaît.
Ah, ouais. Oui, tout à fait, je la reconnais effectivement.
Ah ouais, Christelle Cornet, là, ben oui. Alors, je l'ai dit, hein, que c'était 1h36, donc il y a eu quand même, il a été présenté ce film au Festival du film francophone d'Angoulême 2022, il a eu une nomination dans la catégorie avant-première. Jean-Paul Sivérac, lui, il avait envie, bon, de traiter d'un personnage qui aurait une ligne droite de comportement, et puis un point de bascule, et au bout, l'accès à une vérité intérieure plus profonde pouvant conduire à un nouvel essor. Il avait envie d'un personnage comme ça. Et bien, il y est arrivé, hein. Il y est arrivé avec une femme de notre temps, la sublime Sophie Marceau, qui a toujours autant de talent, plus encore même, de plus en plus. On peut dire ça comme ça, en fait, là, quand on parle d'elle.
Ah, ouais. Elle est de plus en plus belle.
Ah oui, puis elle a son talent... Elle n'a pas perdu, au contraire, elle a gagné avec les années au point de vue talent. Il n'y a rien à dire. Mais physiquement, elle a toujours été très, très jolie. Maintenant, elle est belle. Elle a été jolie et maintenant, elle est belle. Tu as raison. Alors, on va passer à un autre film. Alors là, c'est pas rigolo du tout. Et alors le titre,
l'origine du mal.
Oui, ça fait froid dans le dos, hein, le titre, l'origine du mal. Moi, pour moi, l'origine du mal, c'était le diable, quoi. C'était vraiment là on est dans l'origine du diable, mon Dieu. Alors ça dure 2h05, faut s'accrocher quand même, hein. C'est un drame, c'est un thriller français et canadien réalisé par Sébastien Marnier, qui est un réalisateur, scénariste, auteur français. Il a 19 ans de carrière, il a 45 ans et 5 tournages quand même pour lui. Bah oui, c'est pareil, il a commencé tout jeune. Et alors, l'origine du mal, oh là, on va savoir tout de suite de quoi il s'agit. Attention, il y a un avertissement, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Bon, ça, c'est noté. Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille. Un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle, ainsi qu'une inquiétante servante. Quelqu'un ment. Entre suspicion et mensonge, le mystère s'installe et le mal se répand. C'est comme la peste, hein ? Le mal se répand. C'était ce qu'on disait quand on parlait de la peste au Moyen-Âge. La peste ne se répand. Eh ben, c'est la même chose. Voilà. Ben, en fait, Sébastien Marnier, là, le réalisateur, dans sa vie personnelle, il a cherché à trouver sa place dans sa famille. Et il l'a fait en ayant recours à l'humour. Ouais. Et parallèlement, il y a tenu un rôle d'observateur qui l'a nourri pour écrire. Et ce, depuis l'enfance. Ainsi, l'origine du mal est inspirée par de nombreuses personnes qu'il connaît. Ouais. Eh ben oui, c'est pas banal non plus, ça. Alors, bah oui, par exemple, il explique par exemple que Jeanne, dans le film, est un personnage secondaire, mais elle met la lumière sur la note d'intention du film. Revenue de l'étranger pour suivre sa mère, elle se retrouve dans ce palais hanté pour en être une observatrice, mais aussi une actrice. C'est un film sur la famille où chacun joue un rôle. C'est donc aussi un film sur les acteurs. Eh ben ouais, c'est quand même... Alors, on lui doit quand même Irréprochable. Hein, on se souvient de ce film quand même, Sébastien Marnier. Irréprochable, qui est sorti, c'était en 2016, il me semble. Oui, c'est ça, avec Marina Foïs et Jérémy El-Khaïm. Et puis, il y avait L'heure de la sortie aussi, en 2019, avec Laurent Lafitte et Emmanuel Berco. C'était des films qui ont très, très bien marché. Alors voilà, le voilà avec qui arrive avec un nouveau thriller, avec L'origine du mal. Alors,
qui pose une ambiance quand même.
Ah oui, quand même, là c'est... Ah oui, il ne faut pas en dire trop, mais en même temps, si tu as la bande-annonce, remarque finalement.
Allez, pour donner un avant-goût, carrément.
Ah, carrément, oui. Carrément.
Et voilà, on vient d'entendre la bande-annonce donc de L'origine du mal.
Ah oui. Attention, hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Attention, l'avertissement est quand même bon. Il faut en tenir compte. Hein, les scènes, les propos, les images là, qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Mais chérie, vous savez comment vous êtes, vous savez comment est votre entourage. Donc, hein, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Voilà, si vous pouvez le voir ou pas. On est d'accord, hein, on est d'accord là-dessus. Bien.
Alors, un autre film.
Oui. Très chouette aussi.
Je vois très que chouette. Tu nous parles d'Anima Bella.
Anima Bella, oui.
Ah, voilà, Anima Bella, oui.
Voilà, et ça veut dire quoi, Anima Bella?
Je ne sais pas, l'animal bello.
Anima, c'est l'âme, notre âme. C'est une belle âme. Anima, c'est une belle âme. Et oui, c'est de Dario Albertini, qui est un réalisateur, scénariste, vidéaste, photographe, compositeur, s'il vous plaît. Il sait tout faire, cet homme-là. Il est italien, il a 48 ans, bravo. Eh bien, en fait, entre 2011 et 2022, il a réalisé des courts-métrages, il a réalisé deux longs-métrages et quatre documentaires qui ont très, très bien fonctionné, d'ailleurs. Et là, il a réalisé la musique du film, puisqu'il est également compositeur. Donc, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Gioia, Gioia, à 18 ans. Sacré prénom, pas facile à prononcer. Gioia a 18 ans, elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère. Rayonnante et généreuse, elle prend soin de sa communauté en collectant et en livrant chaque jour quelques litres d'eau thermale provenant de la source « miraculeuse » entre guillemets, bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui l'amènera loin de chez elle, dans une ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père. Alors, c'est titré quand même une merveilleuse découverte, magnifique, d'une humanité rare. Voilà comment ça a été reçu. 1h35, notre âme italien. Alors, on a, dans le rôle de Gioia, on a Mandalina Maria Gical. Elle est formidable, cette actrice. Hein. Vraiment, cette gamine-là, elle est formidable. On a Elisabetta Rocchetti, on a Pietro Turano, Yuri Casagrande Conti, on a Paola Lavini, elle est connue hein, en Italie, on a Francesca Schillem, on a Piera Degli Esposti, j'espère que je n'ai pas écorché leur nom quand même, et on a Enzo Casertano, ce sont des acteurs italiens, il y en a deux ou trois qui sont quand même très connus en Italie. Ouais. Et Mandalina Maria Gical, hein, rien que pour elle, ça vaut le coup d'aller voir ce film qui est vraiment une petite merveille.
Une ouais. Belle âme, donc. Anima Bella.
Dario Albertini, le réalisateur, a travaillé avec Simone Ranucca, qui est Simone Ranucci, c'est pas du tout le même, qui est un scénariste italien qui travaille beaucoup sur des films italiens, voilà, il a travaillé avec lui. Ils ont fait un
chouette que c'est vrai que la production italienne n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Et un film italien, c'est toujours bon à prendre.
Ah oui, tout à fait. Surtout celui-là, justement. Ouais. Oh, après, on arrive alors chez. Oh là là, j'ai des personnages qu'on adore, les réalisateurs. Alors, le film, c'est Tori et Lokita. Et alors, les réalisateurs, oh là là, c'est Luc et Jean-Pierre Dardenne. Les fameux frères Dardenne. Ils n'ont jamais sorti un film sans être couverts de prix. C'est le moins qu'on puisse dire. Chaque fois qu'ils vont sur la croisette, ils repartent avec des prix et des nominations dans leur bagage. Ah oui. Alors, ils n'ont pas tout à fait le même âge. Il y en a un qui a 68 ans, c'est Luc Dardenne, réalisateur, scénariste, producteur, coproducteur belge. Et puis son frère, Jean-Pierre Dardenne, il a 71 ans. Bon, c'est l'aîné de 3 ans quand même, réalisateur, scénariste, producteur, coproducteur belge, pareil. Ils ont 43 ans de carrière tous les deux et 53 tournages à leur actif. Ils ont 10 prix et 91 nominations. Alors là, c'est quand même. Alors, ça dure 1h28, c'est un drame belge et français. Aujourd'hui, en Belgique, un garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Voilà l'histoire. Et il y a un casting extrêmement sympathique. Ils sont doués et ils sont sympathiques et on les aime assez rapidement, les personnages, ce qui n'est quand même pas évident. Ce n'est pas toujours le cas, mais on les aime très, très rapidement. Alors, on a Pablo Chila qui joue Tori, c'est un acteur belge. On a Jolie Mbundu, qui est une actrice belge qui joue Lokita. On a Alban Oukaj, oui, aussi, qui est un acteur kosovar-albanais, Alban Oukaj. On a Tijmen Govaerts, qui est un acteur belge. On a Charlotte De Bruyne. Ce sont là des acteurs belges que j'ai. Hein. On a Nadège Ouédraogo, qui est une actrice belge. On a Claire Botson. Et puis, on a Marc Zynga. Oh, mais Marc Zynga, on le connaît, lui, cet acteur belge, parce qu'on l'avait beaucoup aimé dans le film Bienvenue à Marly-Gaumont, sorti en 2016, avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, qu'on a retrouvé après dans Il a déjà tes yeux, le film qui est sorti en 2016, qui a très, très bien marché aussi. Marc Zynga. Ah oui, on retrouve le médecin de Bienvenue à Marly-Gaumont. Cette histoire est extraordinaire. Alors, si vous ne l'avez pas, mes chéris, Bienvenue à Marly-Gaumont, franchement, ça vaut le coup quand même de le trouver, de trouver le DVD. Il n'y a pas de honte à l'avoir dans sa vidéothèque. Ça, c'est sûr. Et ainsi qu'Il a déjà tes yeux, d'ailleurs, hein, sorti la même année. Ce sont des films qu'on peut avoir pour se détendre. Voilà, tout simplement se détendre. Donc là, il y a quand même, pour ce film, Tori et Lokita, comme d'habitude, il y a un prix 6 nominations au Festival de Cannes 2022, catégorie prix spécial du 75e anniversaire du Festival de Cannes. Et c'est eux qui l'ont eu, ce prix, le prix du 75e, que tout le monde voulait, en fait. Eh oui, eh ben oui, ce sont les frères Dardenne qui l'ont eu, comme d'habitude. Alors, ils nous disent que notre plus cher désir est qu'à la fin du film, le spectateur et la spectatrice qui auront ressenti une profonde empathie pour ces deux jeunes exilés, hein, et leur indéfectible amitié, eh bien, que ces spectateurs éprouvent aussi un sentiment de révolte contre l'injustice qui règne dans nos sociétés. Voilà ce que nous disent les frères Dardenne. C'est l'intense amitié entre les deux protagonistes du film qui a été le point de départ de ce film, justement. C'est seulement lorsque nous avons pensé qu'une telle amitié pouvait être le noyau de notre film que nous avons senti que nos deux personnages principaux, Lokita et Tori, devenaient des êtres humains, vivants, uniques, qu'ils sortaient du destin médiatique de ces jeunes migrants qu'on appelle les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, MENA, voilà ce que ça veut dire, et qu'ils échappaient à l'illustration d'un cas, d'une situation, d'un thème, d'un sujet. Il ne s'agissait pas de nier leur situation d'exilé, mais au contraire, de lui donner encore plus de relief grâce à cette amitié qui se fortifiait en ripostant à la violence de leur environnement. Alors, ce sont des jeunes débutants, hein, Pablo Schill et M. Bundus, Joeli, sont des débutants. Ils n'avaient jamais joué la comédie auparavant. Voilà. Ce n'est pas la première fois que les frères Dardenne font appel à des acteurs non professionnels.
Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est une habitude.
Oui. Alors, c'est titré Jean-Pierre et Luc Dardenne touchent en plein cœur. C'est bouleversant. C'est d'une efficacité redoutable. Voilà. En fait, ils ont d'ailleurs, les frères Dardenne ont lancé des acteurs. Hein. Par exemple, ils ont fait débuter Jérémy Régnier dans La Promesse, qui est sorti en 1996, 3 nominations. Et Émilie Dequesne aussi, dans Rosetta, qui était sorti en 1999, pour lequel ils avaient eu 2 prix et 4 nominations. Et depuis, ce sont venus de grands comédiens. Hein. Mais ils les avaient fait débuter, ouais, ils les avaient fait débuter. On leur doit ces acteurs de prestige. Tori et Lokita, mais oui.
Tori et Lokita. Des frères Dardenne. Et alors là, dans ta sélection, je me disais, il n'y a pas encore eu de film d'animation. Et là, tu nous sors de ton chapeau.
Un manga. Ouais. C'est un manga, mais c'est connu ça. Dragon Ball Super, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est connu comme tout. Ça a commencé en 1984 d'ailleurs, les Dragon Ball. Dragon Ball Super, 2. Super Héros. C'est le premier long métrage Dragon Ball entièrement conçu en images de synthèse, ce qui a fait hurler quelques fans. Voilà. C'est de l'animation, c'est des arts martiaux, c'est de l'action, c'est du fantastique, c'est japonais. Ça dure 1h30. Il faut savoir que justement, Dragon Ball est un phénomène planétaire, absolument. Hein. Alors, celui-ci a été réalisé par Tetsuro Kodama, qui est un réalisateur japonais. Il est réalisateur 3D également. C'est un acteur, c'est un artiste musical. Il a 44 ans. Il a travaillé énormément sur des séries et des jeux vidéo. C'est sa première expérience, en fait, là, comme réalisateur principal d'un long métrage Dragon Ball. Voilà. En revanche, le scénario, lui, est toujours signé Akira Toriyama, qui est le créateur du manga. Voilà. Alors c'est le second long métrage issu de la série Dragon Ball Super, elle-même troisième volet de l'ensemble de la saga animée après Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce nouvel opus, quand même, c'est bon à signaler, ne nécessite pas d'avoir vu les précédents. On n'est pas obligé. On peut le comprendre sans avoir vu les précédents. Ouais, c'est ça. Alors, faut quand même, après son deuxième week-end d'exploitation aux États-Unis, on compte en 2 week-ends 30 millions de dollars de recettes au box-office. Il s'est classé dans le top 5 des meilleurs résultats jamais obtenus aux États-Unis pour un long métrage d'animation. C'est un sacré phénomène, ce truc, quand même. Hein. Alors, il y a un avertissement, quand même, hein, ça, il faut le dire, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est quand même important. C'est l'histoire de l'armée du ruban rouge qui avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes Gamma 1 et Gamma 2, autoproclamés les super-héros. Ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Et quel est le but de cette nouvelle organisation du ruban rouge? Je vous pose la question. Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Debout les héros. Il était très attendu, hein, celui-là, par les fans, évidemment. Mais quand même, cette histoire entièrement conçue en image de synthèse, ça n'a pas plu à tout le monde.
Les fans sont un peu conservateurs, certains.
Oui, bah, on ne peut pas faire que des heureux. Alors, je ne sais pas, là, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce que j'avais des documentaires.
Encore quelques minutes.
Je voulais commencer par un documentaire que je trouve vraiment intéressant, qui dure 1h34, de Camille Poncin, qui est une réalisatrice française. Hein. Elle a été chef opératrice pour le cinéma, et la télévision. Et depuis 2003, elle a réalisé une douzaine de documentaires, dont certains ont été très remarqués, Camille Poncin. Alors, La Combattante, c'est l'histoire de Marie-Josée Toubiana, qui a 90 ans, qui est qui est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de réfugiés, pour authentifier leurs récits et compléter leur dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, elle met à contribution son savoir et le travail de toute une vie de recherche pour mener son combat, le combat d'une vie dédiée à autrui. Je trouvais que c'était tellement beau que ça valait la peine d'en parler, quand même, vraiment. Voilà. Ma foi.
On a encore quelques minutes, hein, si tu veux parler des deux autres documentaires.
Oui, Être prof, le deuxième documentaire qui dure 1h22, d'Émilie Théron. Alors, Émilie Théron, c'est une réalisatrice, directrice de la photographie des Françaises. Elle a 52 ans. Elle est la fille de Roger Théron, le mythique patron de Paris Match. Eh oui. Elle est une journaliste réputée de l'agence Capra. Capra, qu'est-ce que j'ai dit, oui. Alors, Être prof. Alors, il y a Karine Viard qui est dans ce film, justement. Alors, elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D'un campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation. Un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter 1000 défis pour faire de l'enseignement une véritable aventure et bouleverser le destin de leurs élèves. Et c'est le producteur de ce film, c'est celui qui a produit Sur le chemin de l'école. Et la réalisatrice, elle a produit un documentaire qui s'appelle Mon maître d'école. Si vous pouvez les trouver, mes chéris, ce sont des très beaux documentaires. Voilà.
Et tu as un dernier documentaire dont tu voulais nous parler. 44 Criollos et du silence.
Ah oui, c'est sacré titre, hein, 44 Criollos et du silence. Oui, alors déjà dire ce que c'est qu'un criollo. Criollo, criollo, ça désigne en fait plusieurs races de petits chevaux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Voilà, cette race de petits chevaux est issue du cheval colonial espagnol. Alors on a le criollo argentin, c'est le plus connu. On a un petit cheval vif, là, qui s'est taillé une solide réputation au polo et lors des randonnées au long cours. Voilà, ils viennent du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay. Alors, c'est Jean-François Pignon qui a réalisé ce documentaire. Jean-François Pignon, réalisateur, producteur, acteur, il est français, il a 53 ans. C'est un artiste équestre. Jean-François Pignon, il est inventeur du spectacle en liberté avec les chevaux. Il se produit dans les plus grandes scènes du monde. Et aussi pour les chefs d'État d'ailleurs. Hein. Il se produit aussi pour des chefs d'État avec son harem, un étalon, des juments et les poulains de l'année. Ben, si vous voulez un criello, mes chéris, je peux vous dire que c'est un cheval frugal et endurant. Donc, pas difficile à nourrir. Et costaud, voilà, pour celui qui en voudrait un. Donc voilà, il s'est lancé un nouveau défi, apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, dans le campo d'un célèbre chanteur français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie, où il va mettre en œuvre son savoir-faire, et sa patience. Peu à peu, la magie opère. On a donc Florent Pagny dans ce film également, bien sûr, puisque ça se passe chez lui. On sait que Florent Pagny vit en Patagonie. Donc, ça se passe chez lui, justement, là-bas. Très, 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 très beau documentaire également. Essayez de les choper, mes petits choux. Sinon, de toute façon, les DVD vont sortir très rapidement. Il suffit de surveiller un peu les sorties, il n'y a pas de souci. Voilà.
Ok, parfait. Donc, super, une belle sélection encore cette semaine.
Ah oui, belle sélection. Bon, eh bien, il va falloir se quitter quand même. Hein.
Eh oui, c'est passé super vite. Hein. Je t'avoue, déjà
ouais. Eh bien oui, déjà, oui. Et donc, je te souhaite une bonne semaine, hein, à la semaine prochaine, Mathieu. Voilà.
Aussi, une ouais, très
prends bien, prends bien soin de toi. Merci, oui. Et puis, à vous, mes chéris, aussi, passez une bonne semaine. Hein. Soyez heureux surtout, hein. Carpe diem. Hein, on profite de la journée, du matin au soir. Et surtout, on n'oublie pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence. de bons yeux, tu sais.
REM, votre radio locale. Vous écoutez REM en FM à Cadillac sur le 98.4.
À La Réole, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
REM, l'entre-deux-mers à sa radio.
REM au cœur de l'entre-deux-mers, 98.4 FM.
Radio Entre-deux-Mers à Blasimon sur le 98.4 FM.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette? Ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà.
Après
Césaria, chapeau pour la route à pied, nuet et nuette, diva aux pieds nus restera et à Césaria, et à la mort aussi, aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà,
après tant d'années,
et voilà,
une de perdue, c'est ça?
Et voilà,
je te retrouverai, c'est sûr.
C'est à sillonner les années, et tant pis. Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra.
Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Rien ne nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort.
Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse, j'ai additionné les échecs et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira.
Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça.
C'est la tempête.